L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Ce 15 avril 1933, nous sommes dans les Highlands, dans le nord de l'Écosse. Ces terres, empreintes de mystères et de légendes, donnent aux paysages son caractère décalé. Et dans l'une des vallées couvertes par une brume mystique, se dévoile le Loch Ness. Un lac d'une profondeur abyssale, où l'eau est sombre. Autour du lac sont installés Monsieur et Madame Mackay, ébahis par la beauté du spectacle. Ils vont être les témoins de l'apparition d'une étrange créature de la taille d'une baleine, pour la première fois nommée le monstre du Loch Ness. Il est 15h, c'est l'heure H de notre récit. Les Highlands, cette région surréaliste de l'Écosse où la nature est intacte, harmonieuse et époustouflante. Là-bas s'érigent des montagnes escarpées surplombant des lochs, comprenez, des lacs écossais, d'un bleu profond au milieu de vallons où la faune vit majestueusement en liberté. Là où les cerfs règnent sur les collines et où les aigles virevoltent à hauteur des nuages. Ces pics s'effacent et se redessinent plusieurs fois dans la journée, réinventant ainsi le paysage qui apparaît et disparaît au bon vouloir du temps. Les nuages viennent déposer leurs ombres qui se déplacent au gré du vent. Et au milieu de ce panorama poétique s'élèvent de grands châteaux qui animent les croyances populaires. Ce 15 avril 1933, les Mackay reviennent de voyage. Ils empruntent la nouvelle route qui offre une vue imprenable sur le Loch Ness quand soudain, sur la route A82, Aldi Mackay voit l'eau se soulever. Elle hurle à son mari. « Stop ! La bête !» La créature se déporte, roule et plonge pendant une minute. Son corps ressemble à celui d'une baleine et l'eau s'écoule autour de lui comme une cascade, formant à la surface des bulles qui ressemblent à celles d'un chaudron frémissant. Le monstre disparaît bientôt dans une masse d'écume bouillonnante. Les Mackay ressentent quelque chose de bien étrange, puisque la créature ne ressemble en rien à ce qui se trouve dans les profondeurs du Loch Ness, ou à ce que l'on pourrait imaginer. La bête a une taille gigantesque, et dans son plongeon final, elle fait se soulever des vagues telles que l'on pourrait les confondre avec celles laissées par le sillage d'un bateau à vapeur. « Enfin vite, mais arrête la voiture et sortons !» lance Madame Mackay à son époux. Mais il est déjà trop tard. La bête noire est repassée sous la surface. L'eau redevient calme et plus rien ne va s'agiter. Au loin, l'horizon devient plat à nouveau. Le monstre du Loch Ness est né. C'est l'effervescence dans les journaux. Tout le monde en parle et de nouveaux témoins sortent du silence. On parle d'un monstre, un dragon ou un animal préhistorique, qui sait ? La légende n'est pas nouvelle, puisqu'elle date en fait du VIe siècle. Des sculptures locales en pierre, réalisées à l'Antiquité, dépeignent une mystérieuse bête dotée de nageoires. Le premier récit apparaît dans une biographie d'un certain Saint Columba. En 565, Saint Columba, un moine écossais qui était en route pour rendre visite au roi des Pictes du Nord, près d'Inverness, a vu par hasard un groupe de personnes enterrait un homme victime d'un étrange monstre dans le Loch Ness. Columba a alors pris l'initiative de se débarrasser du monstre en demandant à l'un des habitants du village de nager dans le lac comme appât pour attirer la bête. Lorsque le monstre serait apparu pour mordre le nageur et une fois qu'il s'apprêtait à l'attaquer, Columba est intervenu. Il aurait invoqué le nom de Dieu pour réussir à le bannir. Columba ordonna à la bête de s'en aller et cette dernière obéit. Dans les eaux troubles du Loch Ness, certains ont encore la chance de voir apparaître cette espèce de serpent géant. Alors est-ce une anguille longue d'une dizaine de mètres, un poisson-chat de la taille des plus gros animaux marins ? Même si l'histoire n'était qu'une légende, le monstre surnommé Nessie serait passé du domaine du folklore et du mythe écossais à celui d'un véritable monstre tapis dans les eaux du Loch Ness. Le statut de Saint Columba dans les ordres a donné beaucoup de crédit à l'existence de Nessie. Aujourd'hui, cet écrit reste une preuve pour ceux qui veulent vraiment croire à l'existence de la bête. Depuis cette date, nombreux disent avoir aperçu la créature en différents points du lac. Heureusement, plus aucune vie n'a été emportée. Intéressons-nous au cas d'Alex Campbell. Il est garde-pêche autour du lac du Loch Ness depuis des années. Depuis sa plus tendre enfance, Alex Campbell est bercé par les histoires qui entourent cette légende. Oh, il y croit dur comme fer. En fait, à la légende, pas tant que ça. En revanche, il est sûr que ses ancêtres ont croisé une bête colossale dont ils ne connaissaient pas encore l'existence. Le monstre est bel et bien dans les profondeurs pour lui, mais ce n'est pas vraiment un monstre. Il s'agirait plutôt d'un animal qu'on ne connaît pas encore. Et puisque l'inconnu nous fait peur, le mythe aurait dépassé la réalité. À ce propos, Alex Campbell déclare « Je suis autour du lac tous les jours. Je ne sais pas si Nessie est un monstre, mais je l'ai déjà aperçu 17 fois. » Dans une lettre, ce qu'il a pu voir le 7 septembre 1933 est relaté comme suit. « Un jour du début du mois dernier, vers 9h30 du matin, j'observais cette extrémité du loch. La lumière était très incertaine. Il y avait une brume assez épaisse sur l'eau et, en plus, le soleil brillait directement dans mon œil à travers la brume, rendant la visibilité très mauvaise. Je n'observais pas depuis plus d'une minute quand j'ai remarqué un objet étrange à la surface de l'eau, à environ 600 mètres de l'endroit où je me tenais. Il semblait faire environ 9 mètres de long et ce que j'ai pris pour la tête était à 2 mètres au-dessus de la surface du loch. La créature, si c'en était une, et à ce moment-là j'en étais certain, semblait regarder deux bateaux qui sortaient du canal et entraient dans le Loch Ness et, que ce soit dû à l'imagination ou non, j'aurais pu jurer qu'elle continuait à tourner sa tête et aussi son corps très rapidement, à peu près comme le fait un cormoran en remontant à la surface. J'ai vu cela pendant une bonne minute, puis la chose a disparu comme si elle s'était enfoncée dans le vide. » Alex Campbell décrit le monstre comme tel, mais est-ce le monstre ou une simple illusion d'optique? Il écrit aussi. Vendredi dernier, j'observais le loch au même endroit et à peu près à la même heure de la journée. Le temps était presque identique, pratiquement calme et le soleil brillait à travers une sorte de brume. En peu de temps, quelque chose de très semblable à ce que j'ai décrit est arrivé dans mon champ de vision et à peu près à la même distance de l'endroit où je me tenais. Mais la lumière s'améliorait sans cesse et en quelques secondes, j'ai découvert que ce que je prenais pour le monstre n'était rien d'autre que quelques cormorans. Et ce qui semblait être la tête était un cormoran debout dans l'eau et battant des ailes, comme ils le font souvent. Les autres cormorans qui étaient alignés derrière l'oiseau de tête ressemblaient dans la faible lumière et à première vue au corps ou au bosse du monstre tel qu'il a été décrit par divers témoins. Mais le plus important, c'est qu'en raison de la lumière incertaine, les corps étaient grossis hors de toute proportion avec leur taille réelle. Cet effet de mirage, je l'ai souvent observé au Loch Ness, mais pas exactement sous la même forme que celle que je viens de décrire. D'autres personnes qui connaissent le loch peuvent vérifier mes dires concernant le mirage, mais il ne se produit que dans certaines conditions et si le loch est calme. Il donne alors à chaque objet, d'une mouette, d'une bouteille ou d'un tonneau vide par exemple, une apparence très grotesque, à condition que ces objets soient suffisamment éloignés de l'observateur. Après 1933, la traque aux monstres commence. Les nouvelles stimulent les efforts pour prouver l'existence d'un monstre dans le lac. Quel animal règne à des dizaines de mètres sous la surface de l'eau. En 1934, le médecin Robert Kenneth Wilson se promène sur les bords du lac muni de son appareil photo, dans l'espoir de pouvoir capturer la créature. Tout à coup, je vois le monstre et je sors mon appareil photo le plus rapidement possible et tac, c'est dans la boîte. On aperçoit sur la photo le cou et la tête de la créature, comme si un diplodocus sortait la tête de l'eau. Ces énormes animaux sortis tout droit de l'ère jurassique sont des herbivores. Mais pour les plus spécialistes de ce domaine, cela ne fait aucun doute. C'est un plésiosaure qui était connu pour vivre dans les fonds marins il y a des millions d'années. Le Daily Mail a imprimé la photographie, déclenchant une sensation internationale, et la photographie du chirurgien devient ainsi emblématique. Depuis les années 1930, les témoignages du monstre sur la Terre des dragons se multiplient. Alors, la créature aurait-elle refait surface près de 1500 ans après sa première apparition? Dans les légendes anciennes, le monstre était comparé à un cheval maléfique des mers, mais un nouveau témoignage va amener à penser que cette bête mystérieuse ne serait pas seulement capable de nager, elle pourrait aussi sortir du lac et marcher. En effet, un soir, les Spicer vont voir la créature traverser devant leur voiture. Les Spicer sont en voiture sur la route qui borde Loch Ness, et là, ils voient une créature haute d'environ 1,20 m et longue d'au moins 8 mètres. Elle est d'un gris éléphant. La texture de sa peau est répugnante. Elle semble aussi visqueuse qu'un escargot et elle a un long cou. Quand les Spicer voient l'animal, ils n'ont aucune idée qu'ils vont provoquer un tel engouement et relancer ainsi la légende du Loch Ness. Le mythe du cheval disparaît au profit d'une fascination pour un énorme monstre, à la fois marin et terrestre. Depuis lors, l'intérêt pour Nessie ne fait que croître. Des milliers de personnes affluent vers le Loch Ness et attendent patiemment d'apercevoir le monstre. Cela incite également plusieurs journaux britanniques à envoyer des reporters en Écosse pour obtenir une couverture exclusive. Qui décrochera l'opportunité d'annoncer au monde entier que le monstre du Loch Ness existe? C'est le Daily Mail qui va s'octroyer ce droit en engageant Marmaduke Wetherell, un chasseur de gros gibier plutôt connu à l'époque. Il débarque le long du lac pour capturer Nessie. Il n'y parvient pas, mais en se promenant, Wetherell trouve des empreintes d'un grand animal à quatre pattes. Mais d'où proviennent-elles? Peu importe. Le Daily Mail publie sans attendre vérification un titre dramatique. Le monstre du Loch Ness n'est pas une légende, mais un fait. Et cette erreur va s'avérer coûteuse pour le journal. Les experts examinent les moulages en plâtre des empreintes de pas que Wetherell prétend avoir aperçues le long de l'eau, celle de Nessie. Le British Museum of Natural History dément l'histoire. Les traces sont celles d'un hippopotame, plus précisément d'un pied d'hippopotame et probablement empaillé. La légende prend du plomb dans l'aile. Mais les histoires d'observation continuent tout de même. Et puis, la science s'en mêle. Serait-ce un plésiosaure? Ce dinosaure au long cou aurait-il traversé 65 millions d'années? Il y a bien longtemps, le plésiosaure se trouvait dans les eaux chaudes d'Écosse. Aujourd'hui, plus aucun animal moderne ne lui ressemble. Pourtant, rappelez-vous, sur la photo du médecin prise en 1934, c'est bien lui qui semble se baigner à 300 mètres du bord. Le lac est rectiligne. Son sillon dans la vallée est étroit et par endroits. Sa profondeur atteint les 230 mètres. Assez pour abriter des espèces énormes qu'on ne connaît pas encore. D'ailleurs, en 1977, des pêcheurs japonais vont pêcher ce qui ressemble à une carcasse de plésiosaure. Mais après avoir analysé les restes de l'animal, il en est ressorti qu'il s'agissait d'un vulgaire requin pèlerin. Dommage, le mystère du Loch Ness n'aura toujours pas été élucidé. L'idée n'était pas stupide. Au XXe siècle, d'autres animaux préhistoriques ont refait surface. Des poissons que l'on croyait éteints ont été pêchés. De plus, les légendes reposent bien souvent sur une réalité. On estime que 86% des espèces sur Terre n'ont pas encore été découvertes. Ainsi, des bestioles de plus de 2 mètres de long se baladent encore dans les fonds marins sans que l'on ait pu les identifier. Il y a tout de même un petit problème concernant le plésiosaure. Oh, on aimerait bien y croire, mais scientifiquement, quelque chose cloche. L'animal, tel qu'il est, lève souvent sa tête de l'eau. Et sur la photo du médecin, elle sort même de l'eau à tel point qu'on pourrait penser qu'elle forme avec son corps un angle droit. Seulement, Les plésiosaures étaient incapables de relever la tête. Ces bêtes étaient conçues pour plonger dans les profondeurs et non pour venir à la surface. Oui, mais alors, quelle est la bête capable de le faire?
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une des légendes les plus connues. C'est dans les Highlands, en Écosse, que se cacherait dans les profondeurs d'un lac à l'eau noire et trouble un monstre aux allures jurassiques. Cette créature sortie tout droit d'une histoire de l'Antiquité fait aujourd'hui l'objet d'un grand mystère. Depuis près d'un siècle, de nombreuses personnes disent avoir vu un serpent de mer de près de 10 mètres de long, appelé le monstre du Loch Ness. Est-il réel ou inventé de toutes pièces? Dans ces milliers de témoignages, quelqu'un aurait-il dit la vérité? La science tente de répondre à la question. Dans les années 1950, Adrian Shine a 7 ans et rencontre son premier serpent de mer. Cet après-midi, l'eau est calme à la plage et, tout à coup, des petites bosses viennent se dessiner dans l'eau et l'horizon vient s'agiter rapidement. « Papa, papa, existe-t-il vraiment ?» s'exclame l'enfant. Ce jour-là, Adrian a vu des oiseaux et les a confondus avec ce qu'il pensait être une bête bien plus terrifiante. Mais existent-ils vraiment les serpents de mer ? Insiste-t-il. Mais non, Adrian, moi non. À 7 ans, la réponse que lui fournit son père n'était pas celle qu'il attendait. Ce n'était pas celle qu'il voulait entendre. La fascination autour du monstre du Loch Ness est similaire. Comment cette légende perdure depuis 1500 ans, vous demandez-vous? Eh bien simplement, parce qu'à la question « existe-t-il vraiment ?», on ne connaît pas encore la réponse qui nous fait languir. Adrian Shine est naturaliste aujourd'hui. Sa mission n'est pas celle d'un professionnel, c'est celle de toute une vie, de toute sa vie. Il veut savoir à tout prix ce que les gens ont pu voir. Ce qu'on pense être un énorme animal serpente-t-il encore dans les eaux du Loch Ness? Et si oui, comment a-t-il fait pour survivre? Et combien sont-ils? Adrian est admiratif des travaux de grands naturalistes comme Sir Peter Scott. Le 11 décembre 1975, un article a été publié dans Nature, l'une des revues scientifiques les plus notables. Dans celui-ci, on attribue officiellement un nom à une nouvelle espèce, Nessiteras rhombopteryx. Elle y est décrite comme la merveille du Ness à la nageoire en diamant. L'auteur principal n'est autre que le cofondateur du Fonds mondial pour la nature, le WWF, le célèbre écologiste britannique Sir Peter Scott. La description de l'espèce faite par Scott est principalement fondée sur des numérisations sonar et sur deux photographies sous-marines prises dans le Loch Ness. Cette déclaration donne encore plus envie à Adrian Shine de mener sa propre expédition dans cette grande étendue d'eau douce située dans les Highlands écossais. Il est seul pour mener son enquête. Au Loch Ness, mais aussi dans le Loch Morar, pas très loin, où une créature aurait, là-bas aussi, attaquer un bateau. À la nuit tombée, Adrian se munit d'une énorme lampe torche, espérant apercevoir une créature qui semblerait remonter à la surface une fois le soleil couché. Adrian répète l'expérience toute une semaine et, un soir, il se retrouve face à une rencontre étonnante, celle qu'il attendait tant. Il se trouve pas très loin du bord. L'eau est très calme, si calme que l'on pourrait dire qu'elle annonce une tempête. Adrian aperçoit, à ce moment, une bosse qui sort de l'eau et traverse lentement le lac. Ce qu'il voit ressemble en tout point aux images qui se trouvent dans le livre qu'il a glissé dans sa poche avant de s'aventurer dans le noir. Dans celui-ci sont répertoriées d'autres expéditions scientifiques qui ont tenté de percer le mystère du lac. Adrian tient son appareil photo en main. Au moment où il s'apprête à prendre le cliché, tout s'arrête de bouger. Il s'en approche lentement sans quitter la chose des yeux. Mais ce qu'il voit se rapproche également de lui, et beaucoup plus rapidement que ce à quoi il s'attendait. ce qu'il voit est encore assez loin. Mais alors que la distance rétrécit entre Adrian et ce qu'il pense être le monstre, il voit ce qui ressemble à une énorme tête immergée. Adrian est terrifié, mais à la fois excité par ce qu'il est en train de voir. Dans l'eau se forment des ondulations qui semblent partir de la bête et qui s'en éloignent. « Elle bouge !» s'écrie Adrian. « C'est le moment de vérité. Les jeunes gens sont immortels, » pense-t-il pour se donner du courage. Les mains d'Adrian Shine sont un peu tremblantes, mais ses yeux se remplissent de la même lueur que celle du regard d'un gamin de 7 ans qui confond des cormorans avec un énorme serpent de mer. Il se rapproche encore un peu plus. Il est prêt à rendre le mythe du Loch Ness réel. Et c'est finalement un rocher large de quelques dizaines de centimètres. Dans le noir, notre vision s'adapte et notre perception change. La bosse qu'il pensait si loin était en fait à quelques mètres de lui. Et les ondulations ne venaient pas de la bête, mais bien du bateau d'Adrian jusqu'à ce qu'elles atteignent le rocher. De cette histoire, Adrian tire deux leçons. La première, il faut aller au bout des choses. Et la deuxième, si l'on ne peut même pas faire confiance à ses propres yeux, il ne faut pas toujours croire la vision des autres. Les recherches du naturaliste ne se limiteront pas au Loch Morar, puisque son objectif ultime est d'étudier le fond du Loch Ness. Ce qui fait la différence entre le Loch Ness et les autres lacs d'Écosse, c'est la noirceur légendaire et mystique de ses eaux. Ce que d'autres n'avaient peut-être pas compris, c'était que s'il fallait trouver quelque chose dans le loch, peut-être valait-il mieux plonger sous l'eau, puisque l'opacité de la surface ne permet pas d'y voir grand-chose. Aux alentours de 1973, Adrian décide donc d'explorer, à l'aide d'une de ses inventions, les profondeurs du lac. Il va plonger dans l'eau une caméra qui, elle, pourra peut-être rapporter des preuves à la surface. Malheureusement, la caméra ne capturera aucune trace d'un monstre. En 1981, Adrian n'a toujours pas renoncé à son rêve d'enfant. Il décide de lancer des sonars dans le loch. Peut-être pourront-ils déceler la présence d'un gros objet qui se déplace dans l'eau. Et en 1987, les techniques ont évolué, mais toujours rien. Des dizaines de bateaux armés de sonars ont déjà balayé le lac du nord au sud. Résultat de ces expéditions ? Trois taches sont perceptibles sur les scans. Que sont-elles ? Des troncs d'arbres ? Des amas de végétaux dans le fond du lac ? Les différences entre deux couches d'eau distinctes dans le lac ? Eh bien, on ne le saura jamais. Quand les sonars ont passé au crible le lac une deuxième fois, plus rien n'est apparu sur les scans. Les années 1990, elles, sont marquées par une batterie de tests et d'enquêtes sur les températures des eaux. Si la créature était un plésiosaure, un véritable dinosaure dont l'espèce aurait survécu 65 millions d'années, l'eau aurait dû être plus chaude. Et si une telle créature vivait ici, de quoi se nourrirait-elle, puisque la population de poissons dans le lac est assez pauvre? Aujourd'hui, des chercheurs néo-zélandais ont tenté de répertorier toutes les espèces vivantes du Loch Ness en extrayant l'ADN d'échantillons d'eau. Après les avoir analysés, les scientifiques ont exclu la présence de grands prédateurs qui vivraient dans le lac. Dans les eaux profondes du loch, aucune preuve de la présence d'un reptile marin préhistorique appelé plésiosaure ou d'un énorme poisson comme un esturgeon n'a été trouvée. On ne pense pas non plus qu'il s'agisse d'un énorme poisson-chat ou encore d'un requin du Groenland. Mais alors, quelle est cette bête ? Les eaux du Loch Ness sont du pain béni pour les scientifiques. Les gens sont friands de mystères, mais c'est au tour de la science d'apporter un nouveau chapitre au mythe de la merveille, à la nageoire en diamant. Il y a dans le loch une quantité très importante d'ADN d'anguilles. On les retrouve presque dans chaque échantillon d'eau. Ce qui veut dire que partout dans le lac, les anguilles sont présentes. Il y en a beaucoup, mais pourrait-il s'agir d'anguilles géantes ? Est-il même possible qu'une anguille atteigne les 10 mètres de long? Toujours aucun moyen de le savoir. Le mystère reste entier. Par contre, cela veut dire que nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il y ait des anguilles géantes dans le Loch Ness. Nous ne pouvons donc pas exclure la possibilité que ce que les gens voient existe bel et bien. Simplement, ce qu'ils croient être le monstre du Loch Ness pourrait être tout simplement une anguille. Un homme tient un registre des observations de Nessie. Son nom est Gary Campbell. Il recense en moyenne 10 rapports par an au sujet de quelque chose d'inexplicable repéré dans les eaux du Loch Ness. Chaque année, le lac fait venir plus de 400 000 visiteurs, donc on peut dire que voir quelque chose est un phénomène plutôt rare. Un jour, sans doute, la science finira par révéler la cause de ces observations. Depuis 1500 ans, des gens voient des choses dans le Loch. Aujourd'hui encore, les yeux des scientifiques se mettent à briller à l'idée d'être les premiers à trouver une explication rationnelle qui se cacherait derrière le monstre du Loch Ness. Malgré les nombreuses tentatives, le doute subsiste encore. Après tout, le Loch Ness n'est pas un lac fermé comme on le pense bien souvent. Il est relié par la rivière Ness à la mer. Serait-ce là le couloir qui laisse venir, puis repartir, cette étrange créature que des milliers de personnes ont pu apercevoir?
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de la merveille à la nageoire en diamant, le monstre du Loch Ness. Dans les profondeurs de l'Écosse se cache, selon les dires, une créature qui remonte occasionnellement à la surface les jours où la brume se pose sur le lac. Depuis les années 1930, c'est la notion de monstre du Loch Ness en tant que reptile préhistorique qui a vraiment captivé l'imagination du public. Pendant longtemps, on a cru que Nessie était un dinosaure. Dans cette ambiance particulière et face au Loch obscur, certains ont tenté d'élucider ce mystère. Mythe ? Ou réalité? La légende du monstre du Loch Ness reposerait-elle sur des faits réels? Le témoignage de la famille Mackay ou encore celui des Spicer nous laisse perplexes. Les uns ont vu au loin le monstre plonger, les autres l'ont vu traverser la route devant eux. Ouais, mais alors qui croire, En réalité, le monstre du Loch Ness a de multiples identités. Il s'agirait, comme certains l'ont suggéré, d'un morse, d'un élan, d'un chameau ou encore d'extraterrestres en visite. D'autres témoins ont avoué avoir été victimes d'un simple mirage. Il est vrai qu'il existe une myriade de phénomènes physiques, comme le vent ou la réflexion du soleil. Anthropiques, tels que les bateaux, leurs sillages et les débris, ou encore naturels, avec des animaux ou des tapis végétaux, et que tous ces phénomènes pourraient être à l'origine de ce que certains ont pensé apercevoir. Selon les versions, la couleur du monstre du Loch Ness peut varier de rose à noir. La bête peut être mate ou brillante, poilue, écailleuse ou visqueuse. Il peut y avoir des bosses qui transpercent la surface ou des crinières qui volent au vent. Le monstre peut avoir des cornes. La bête se déplace parfois à grande vitesse, alors qu'en d'autres temps, elle semble immobile. Aucune identité ne rend compte de la variété des caractéristiques signalées de Nessie. Comment savoir? Dans les années 1970, le naturaliste Sir Peter Scott a donné au monstre un véritable nom. De la légende, un animal est né. Son objectif était de pouvoir protéger une espèce que nous ne connaissions peut-être pas encore, et qui allait bientôt être découverte. Rappelez-vous, Nessie s'appelle, presque présomptueusement, un Nessiteras rhombopteryx. Mais lorsque l'on se penche sur les lettres, quelque chose de surprenant ressort. Si l'on assemble le M, le O, le N, le S, le T, le E et le R, on obtient l'anagramme de Munster, puis le mot « hoax » qui veut dire « canular » en anglais, et enfin « Sir Peter S ». Une fois les mots assemblés, on lit « Munster hoax by Sir Peter S ». Autrement dit, « canular monstre de Sir Peter S ». Mais les photos et les vidéos, me direz-vous, témoignent bien que quelque chose rôde dans le lac. Sur certaines vidéos, on aperçoit des traînées d'eau montrant qu'une masse se déplace à contre-courant. Sur la photo du sonar que Sir Peter Scott apporte pour soutenir que la créature existe bel et bien, on voit clairement un animal prolongé par une nageoire, puis une zone d'ombre au niveau de ce qui pourrait être un cou, et enfin ce qui ressemble à une tête. Étonnant. Nous avons toujours envie d'y croire, mais la photo est analysée et, sans retouche, on voit apparaître une tache. Si je ne vous disais pas que la photo était celle de Nessie, vous penseriez qu'elle a été prise dans les années 1960 et que quelqu'un a dû mettre son doigt sur l'objectif. Mais si je vous dis que la photographie représente la créature qui nage dans les profondeurs du loch, peut-être verriez-vous une nageoire se dessiner, puis un cou, puis une tête. Avec quelques retouches, la photo devient plus nette encore. Puis votre cerveau oublierait que le cou de la bête disparaît sur quelques centimètres pour se prolonger un peu plus loin. Pourtant, sortie de son contexte, l'image ne ressemble absolument à rien. La déception est immense. Mais, et cette photographie du médecin alors, il reste un espoir. Sur cette fameuse photo du chirurgien, on aperçoit distinctement une bête sortant son cou de l'eau. Et cette bête est énorme. À 200 mètres du rivage, Robert Wilson Kenneth a vu, selon ses dires, les eaux enfler soudainement et un étrange animal émerger un court instant. Mais en 1994, le mythe s'effondre. Le médecin Robert Kenneth Wilson avoue que sa photographie est un véritable canular. La créature représentée sur la photo prise par Robert Wilson en 1934, s'est avérée n'être rien d'autre qu'un sous-marin jouet avec une tête en plastique collée dessus. Cela ne mettra de toute façon pas fin à la légende, parce que même après, d'autres se sont lancés dans la traque du monstre. Steve Feltham est un chasseur de Nessie. Et dire que Steve est patient serait un euphémisme. Depuis 1991, il est assis juste devant le Loch Ness, espérant que son dévouement paiera un jour. Il reste à regarder et à attendre à plein temps sur les rives du loch. Il a pu observer une fois ce qu'il pense être le monstre. C'est pour lui un rêve qui est devenu réalité. Il est fasciné depuis des vacances en famille en 1970, alors qu'il n'avait que 7 ans. Lors d'une visite du lac, il a vu le bureau des phénomènes du loch en action. Ce n'étaient pas des enfants, mais bien des hommes qui croyaient en l'existence des monstres, tout comme lui. Chaque été, aux abords du loch, une équipe installait un camp de fortune près du château d'Urquhart. De là, elle montait une surveillance 24 heures sur 24 dans l'espoir de filmer Nessie. Son imagination d'enfant avait été frappée par une énorme plateforme qu'ils avaient construite pour installer une caméra et un trépied. L'objectif à lui seul devait faire 1 mètre de long. Steve est fasciné. Son père lui offre même des livres avec des photos iconiques des investigations du bureau. Steve retournera de nombreuses fois au Loch Ness, d'abord en tant qu'enfant et puis comme adulte pour enfin mener sa propre enquête. Il prend congé 2 semaines pour venir se poster devant le loch, armé d'un simple appareil photo et de la vieille paire de jumelles de son grand-père. Il date de la Deuxième Guerre mondiale, mais Steve est persuadé que son attirail et les 2 semaines suffiront pour résoudre le mystère du Loch Ness. Après de longs jours passés sur place, il pense abandonner sa carrière et aller chasser le monstre du Loch Ness. Mais bon, il va devoir partir en expédition 3 semaines pour être sûr que ce qu'il s'apprête à faire ne soit pas une mauvaise décision. Il vit cet été-là des moments qui seront à jamais gravés dans sa mémoire. À son retour, Steve vend sa maison et annonce à ses parents qu'il ne travaillera plus pour l'entreprise familiale. Puis, il ajoute « Ah, et au fait, je vais chercher le monstre du Loch Ness à la place. » Sa mère regarde son père et lui dit « Mais je te l'avais dit », en esquissant un léger sourire. Steve Feltham veut trouver un sens à sa vie. Il devient en 1991 un chasseur de monstres à plein temps. Les premières années que Steve a passées autour du lac, il était certain qu'un plésiosaure vivait au fond du lac. C'est ce pourquoi il était là et c'est ce qu'il était convaincu qu'il allait bientôt voir. Steve est en vanne et vit au bord de l'eau. Tous les matins au réveil, il voit devant lui cette immense étendue d'eau qui regorge certainement de bien des secrets. Il regarde lui aussi le lac avec des yeux d'enfant. Mais personne ne le connaît. Et donc personne n'achète les petites figurines du monstre qu'il sculpte pour pouvoir survivre. Il va peut-être falloir entrer. Heureusement, son documentaire sur la BBC va lui donner assez de notoriété pour soutenir son rêve. Un matin, quelques mois après son arrivée, Steve voit une traînée d'eau se déplacer à une allure démentielle. Le sillage ressemble à celui laissé par un jet ski, mais personne ne se trouve sur le loch. On dirait une torpille. La chose vient frapper chaque vague qui vient se cogner contre elle en sens inverse, en faisant s'envoler dans les airs des éclaboussures d'eau. Steve reste figé devant le spectacle. Non mais regardez-moi ça. Obnubilé, il en oublie même que son travail autour du loch est de trouver des preuves. Il est simplement capturé par l'instant. La prochaine fois, se dit-il, je serai prêt avec mon appareil. Trois décennies plus tard, Steve Feltham attend toujours sa deuxième observation. Au fil du temps, ce que Steve recherchait a changé. Il n'est plus en train de poursuivre des dinosaures au long cou. Non. Il ne pense pas qu'un plésiosaure puisse se cacher dans les eaux du lac. Peu importe à quel point il espère voir des plésiosaures dans le lac, il sait que ça ne les fera pas apparaître. Ils ne sont simplement pas là. Il ne se fatiguera jamais de regarder ce plan d'eau qui l'émerveille. Il n'imagine même pas la chance qu'il a. Quel voyage que celui que ce petit garçon de 7 ans a dû parcourir pour se trouver encore aujourd'hui devant le lac à espérer, avec tout autant de ferveur qu'autrefois, pouvoir apercevoir un monstre. Steve Feltham a poursuivi son rêve. Aujourd'hui, il sculpte ses figurines en regardant l'horizon et il est assez chanceux pour voir chaque jour à perte de vue le lac dont le mystère de ses eaux reste intact. On aurait donc tendance à être plus intéressé par les humains que par ce qui se cache dans le loch. L'imagination est elle aussi fascinante. La réponse des mystères du Loch Ness se cache-t-elle dans notre subconscient finalement ? À chaque vague, de nouveaux témoignages sont pesants d'œuvres cinématographiques. 1930 marque la sortie du célèbre film King Kong qui met en scène le singe, bien sûr, mais aussi un énorme dinosaure. Bien souvent, les rapports viennent faire un lien entre ce que les gens ont vu et ce qui existe déjà. Ainsi, beaucoup disent avoir vu un animal ressemblant au dinosaure hollywoodien. Cela suggère que Nessie est une production de la psychologie humaine plutôt que de la nature. Et c'est peut-être la psychologie humaine plutôt que la nature qui a fait perdurer la légende du monstre depuis les années 30 et même avant cela. La vraie question est de savoir si nous voulons vraiment percer le mystère du Loch Ness ou s'il n'est pas préférable de garder sa légende sans tache. Nessie ne cessera ainsi de faire luire les yeux des enfants et de ceux d'aujourd'hui devenus grands. Si l'on demande à Steve Feltham ce qu'il en pense, il vous dira que l'existence du monstre a peu d'importance. L'important est de croire en ses rêves, même si d'autres viennent vous dire qu'ils sont farfelus. Il est fort probable, de toute façon, que la réponse à nos questions se trouve en dehors du lac et que le monstre du Loch Ness se trouve en fait dans notre imaginaire collectif. Mais le doute subsiste. Et rien n'est plus fort que l'envie d'une culture qui veut que son mythe devienne réalité. Il est 15h en Écosse. Et aujourd'hui encore, les profondeurs abyssales du Loch Ness renferment l'un des plus grands mystères de tous les temps. Voilà pour ce récit de la légende la plus connue d'Écosse que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume d'Emma Verset.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.